Dans cette série de podcasts inédits et tirés de la première biographie du maestro, intitulée Ennio Morricone ou le poison d'une œuvre, paru aux éditions Marie B et signé Philippe Grégoire, nous proposons une série de focus par périodes successives sur la vie et l'œuvre de Morricone. Ce cinquième podcast, intitulé Le Bon, la Brute et le Truand, traite de la collaboration entre Ennio Morricone et Sergio Leone dans la période 1963-1967 avec un focus sur la bande-son du film intitulé Le Bon, la Brute et le Truand. Cette période de 1963 à 1967 fut marquée par la collaboration fructueuse et couronnée de succès entre Morricone et Leone. Néanmoins, le temps de travail effectif avec son ami Sergio ne couvrit pas, loin s'en faut, toute la dite période. Il s'agissait même d'une séquence à minima, si on regarde le foisonnement créatif de Morricone. Ce dernier écartait néanmoins de son emploi du temps très chargé tout type de travaux liés à l'écriture classique et expérimentale. Entre 1959 et 1965, il ne signa aucune composition classique. Il en produisit une en 1966, est-ce à dire que la tentation de tourner le dos à tout ce qu'il avait appris de ses maîtres à Sainte-Cécile fut plus forte? Bien sûr que non. L'œuvre de Morricone ne s'inscrivit pas dans une linéarité, elle avança plutôt par période, c'est vrai pour ses partitions pour l'écran comme pour ses travaux classiques. Contrairement à une légende, la collaboration entre Leone et Morricone ne débuta pas au printemps 1964 sous les meilleurs auspices. Le compositeur frôla même la rupture lors de leur premier film en commun pour une poignée de dollars. Le désaccord portait sur la partition de la scène finale. Afin de faciliter le montage du film, Leone travaillait à partir de musique d'autres films. Pour cette séquence, il choisit d'adopter temporairement un morceau de Rio Bravo, d'Howard Hughes, intitulé « Des Gallos » et écrit par Dimitri Tionkin, avec une trompette dominante jouée en solo. Au final, le réalisateur ne voulait plus en changer. « Si tu prends ce morceau, je quitte le film. » Et je suis parti à un moment de ma vie où je n'avais pas eu de lire. Ensuite, Leone a fait marche arrière et a consenti à m'accorder plus de liberté. « Ennio, je ne te demande pas d'imiter, mais de faire un peu la même chose. » Ennio Morricone ressortit de ses placards une berceuse créée quelques mois auparavant pour un spectacle et sans le signaler à Leone, la lui joua au piano. Elle fut validée par le cinéaste et l'accalmie revint entre les deux compères. Avant que Leone n'exige que la trompette soit dévolue à Nini Rosso, un trompettiste à succès, pour mixer le son de l'instrument avec la voix, tandis que Morricone voulait Michel Lacerenza, avec qui il avait étudié au conservatoire. Rosso n'étant pas sous contrat avec la RCA, le débat fut très vite clos. Lacerenza interpréta le morceau à la trompette, les larmes aux yeux, sachant que Leone ne voulait pas de lui, et en accentuant le timbre mexicain de son instrument, pour le satisfaire au mieux. Ainsi naquit le thème principal pour une poignée de dollars. Cette période marquait sans nul doute un tournant majeur pour Morricone. Il s'inscrivait désormais sur une trajectoire marquée par le succès artistique et commercial. Il attirait à lui des cinéastes expérimentés qui venaient s'ajouter à son relationnel bien établi, dans lequel on trouvait en première place son complice Leone. Avec celui-ci, il passa un nouveau et deuxième western intitulé et pour quelques dollars de plus, sorti en salle en 1966, puis au dernier opus de la trilogie du dollar, avec pour toile de fond la guerre de sécession aux États-Unis, au sujet de laquelle Léon s'était beaucoup documenté. C'est ainsi que Le Bon, La Brute et Le Truand fut mis en chantier en 1966. Cette fois-ci, Clint Eastwood, Le Bon, devait partager la vedette avec Lee Van Cleef, La Brute, et Eli Wallach, Le Truand. À son grand mécontentement, arguant que ce rythme au fil des films, il finirait dans un régiment de cavalerie. Si cette histoire de trois hommes, cupides et bandits à des degrés divers, qui tentaient de s'emparer d'un trésor au temps de la guerre civile, ravit d'emblée le public, la bande-son ne fut pas en reste. Elle resta à tout jamais gravée dans l'univers des chefs-d'œuvre des musiques pour l'écran. La partition du compositeur se révéla tout à fait originale au sens strict du terme, en raison de son côté inédit. L'instrumentation, là encore très originale, reposait sur une conception musicale sans équivalent, singulière et très éclectique, voire très audacieuse, frisant souvent avec l'opéra baroque entre touches d'humour et vrai lyrisme. Ennio Morricone eut en effet recours à plusieurs instruments. On retrouvait bien sûr les sifflements du soliste Alessandro Alessandroni, les vocalises insolites du chœur à huit voix, Cantori Moderni, une guitare électrique, l'orgue à monde, le piano électrique, Rod, le synthquet déjà évoqué, ainsi qu'un chœur d'hommes poussant des cris de guerriers « Go, go !» Morricone y ajouta une flûte à bec soprano, une trompette piccolo, un aguilofono, une guitare mexicaine et, pour agrémenter le tout, quelques solistes comme Edda del Orso, que le compositeur prit un malin plaisir à faire intervenir de multiples fois. La convocation de multiples instruments a priori surprenants, atypiques et difficiles à marier, résultait pour une grande part de la formation post-verbérienne de Morricone, qui se caractérisait par une pratique musicale à base d'instruments atypiques. La partition de Le Bon, La Brute et Le Truand s'organisa autour de ce désormais célébrissime thème central composé de deux mouvements, le premier n'étant autre que le cri du coyote, que je ne vais pas vous reproduire. À cette période de sa vie, le compositeur se focalisait sur la reproduction des cris d'animaux et il jugeait celui du coyote comme éminemment musical. Il fit intervenir deux chanteurs, l'un pour les Asforzando, l'autre pour les E en voix de fossé, puis il mixa le tout en rajoutant de l'écho. Il demanda ensuite aux voix d'imiter les wah-wah qu'obtiennent les trompettes et trombones en faisant aller et venir leurs sourdines d'avant en arrière à la manière des brass bands des années 20. Et le tour était joué pour cette première partie. La seconde, accompagnée par une mélodie de guitare électrique très désinvolte, entonnant un arpège aux deux quintes successives, se focalisait sur chacun des trois personnages. Pour répondre à la demande de Léon, qui souhaitait voir associer un instrument à chaque personnage, Morricone attribua la flûte à bec à Blondin, Clint Eastwood, la voix humaine à Tuco, Eli Wallach, et l'aguilofono, sorte de flûte globulaire semblable à l'ocarina, à Sentenza, Lee Van Cleef. La rythmique des cordes, très soutenue, faisait allusion au galop du cheval, Morricone s'étant inspiré du combat de Tancrède et de Clorinde, une œuvre majeure de Monteverdi, Léon exulta à l'écoute de ce premier morceau. We'll be right back. La durée du film obligea Morricone à multiplier les thèmes et à allonger leur durée. Si le thème principal assura de lui-même le succès du film, celui intitulé L'extase de l'or accompagnait Tuco dans sa course éperdue parmi les tombes du cimetière de Sadil, 3 minutes et 22 secondes de pur bonheur, un grand hymne à la fois sublime et épique, laissant la place à une chanteuse soprano rejointe par un chœur imposant, faisant allusion au rire des morts scrutant la scène. Ce morceau devint au fil des années très populaire, tant parmi les professionnels de la musique, les groupes de Ramones ou encore Metallica débutent tous leurs concerts avec ce morceau, que parmi le grand public. Morricone le reprendra à l'occasion de la plupart de ses concerts, notamment celui qui est cité en introduction de l'ouvrage en référence de ce podcast. La bande-son de ce film, vous l'avez deviné, se caractérise par son caractère tout à fait exceptionnel. Il y a de très nombreux thèmes qui méritent le détour, à commencer par ce que nous venons de citer, mais plus encore le thème magnifique intitulé Il Forte, qui mêle deux trompettes, toutes interprétées par Francesco Catania, comme toutes les séquences militaires, comme un rappel des deux factions nordistes et sudistes, avec une énorme nuance ici pour exprimer l'arrêt très provisoire des combats afin de ramener les morts et les blessés. Autre thème intitulé Il Tramonto rappelle de façon très sensible celui intitulé Pour une poignée de dollars, avec un traitement ostensiblement plus mélancolique grâce à la guitare classique accompagnée d'un traitement choral de cordes qui sera utilisé d'ailleurs plus tard pour Il était une fois dans l'Ouest et Il était une fois la Révolution. Autre thème absolument magnifique, la musique du désert. C'est l'un des plus beaux thèmes, à mon sens, de Morricone, avec en place centrale le hautbois, qui s'exprime de façon presque sinistre et atonale, annonçant d'ailleurs par là les compositions sombres des années 70 et 80 du maestro. Autre thème, toujours, The Story of a Soldier, poignante avec son chant mélancolique émanant d'un chœur, illustrant une scène à l'intérieur d'un camp de prisonniers. Ou encore The Carriage of the Spirit, qui n'est autre qu'une douce mélodie accompagnant l'apparition d'une diligence fantôme. Et enfin, autre thème à signaler, celui intitulé Marcia, qui est un chant basique à la manière d'un air populaire sur fond d'harmonica, doublé par le sifflement d'Alessandro Alessandroni. Si vous écoutez ce podcast via l'une des plateformes de diffusion musicale les plus importantes, vous pouvez très facilement les retrouver. Ou bien je vous invite à consulter le site morricone-biographie.fr qui comporte deux playlists extrêmement intéressantes et qui incluent bien évidemment tous les thèmes que je viens de citer. C'est une occasion pour vous de les écouter de façon intégrale et rien ne vaut en fait l'écoute des thèmes du maestro. Même constatation pour le morceau de guitare et piano intitulé Le Trio, qui illustrait l'affrontement final entre les trois protagonistes. Ces derniers semblaient d'ailleurs se déplacer en fonction du rythme de la musique, lyrique par l'utilisation d'un petit motif de piano et de guitare. Ce morceau souligne progressivement, par l'emploi notamment de la trompette, le caractère intense et dramatique de la scène qui s'éternise, images, succession de regards en gros plan et musique obsédante, mettant à l'épreuve les nerfs des spectateurs jusqu'au dénouement final. Le thème musical souligne le caractère dramatique de la scène avec un lyrisme qui donne aux images une dimension chorégraphique véritablement du grand art. Si en principe Ennio Morricone se donnait habituellement à l'époque un mois pour composer pour un film, celui-ci ne prit que 4 jours pour Le Bon, la Brute et le Truand. La musique fut composée avant le tournage, puis envoyée sur le plateau. Cela donnait l'atmosphère de la scène. Le jeu des comédiens en était très largement influencé. Ainsi, Morricone fut amené sur le plateau à s'investir dans la direction des acteurs par la médiation de sa musique afin de les guider vers un état émotionnel en pleine adéquation avec leur personnage et l'action à jouer. Clint Eastwood appréciait beaucoup cette méthode. Il déclarera plus tard « La musique joue un rôle particulièrement important au cinéma. » La musique ou l'absence de musique d'ailleurs. En fait, c'est l'ensemble sonore qui importe beaucoup, ce qui inclut la musique, toutes sortes de sons, de bruits et de silences. Quand j'ai tourné pour une poignée de dollars avec Sergio, je n'avais aucune idée du rôle du son, de la musique. Quand j'ai vu le film terminé, j'ai été subjugué. Je me suis dit que ce Morricone était génial. Progressivement, en faisant « Et pour quelques dollars de puce », puis « Le Bon, la Brute et le Truand », j'ai compris ce qu'on pouvait tirer de la musique au cinéma. Le montage permit au réalisateur de décaler la musique avec les images, de sorte à suggérer au spectateur l'existence d'un second degré dans la manière de recevoir le film, pour mieux capter la forme légèrement parodique de l'histoire, tout à fait revendiquée par Léon. Léon a comparé ce film à un concerto plus qu'à un opéra baroque, car il considérait qu'il n'y a aucun réalisme dans l'opéra. Là, la musique a pris une importance capitale. Elle devait être complexe, avec humour, le tragique et le baroque, et ne devait pas se limiter à la répétition entrecroisée du thème de chaque personnage. Ainsi donc, en témoignent les cahiers du cinéma de Jean-Baptiste Torret. Ça a été écrit en 2007. Le film encaissa 25 millions de dollars de recettes pour un budget initial d'$1,200,000. Aux États-Unis, le film reçut un énorme accueil et du coup relança les 2 premiers opus de la trilogie du dollar. Les éloges dithyrambiques qui furent adressés à Sergio Leone le furent également à l'attention d'Ennio Morricone, au sujet duquel son ami cinéaste dit « J'ai demandé une musique à Morricone avec qui je suis désormais marié, comme les catholiques étaient mariés, avant les lois sur le divorce. » La relation entre les deux n'était toutefois pas de tout repos. Il y avait avant tout du respect, une amitié profonde et ancienne, une estime immense sur le plan professionnel. Ils formaient en effet une sorte de couple qui se disait tout, le meilleur et le pire, si bien que de mémorables disputes survenaient régulièrement. Chacun restait sur ses positions quand l'un d'eux finissait par céder pour continuer et passer à l'étape suivante dans une vraie harmonie et identité de vue, avant qu'un prochain orage ne vînt perturber de nouveau cette tranquillité fragile. Tous deux passionnés, pleinement investis dans leur art, Il ne pouvait transiger qu'avec la plus grande difficulté. Chacun savait ce qu'il voulait. Léon demandait des thèmes que le public pût écouter et chanter facilement. Morricone voulait exploiter le plus possible les diverses options musicales appliquées à l'écran. Et les films signés Léon formaient le résultat de cette relation si singulière dans l'histoire du cinéma, où la musique se joue des images pour leur ajouter une plus-value souvent ironique qui témoignait du recul de Léon sur ses personnages et les actions qu'il mettait en scène, où la bande-son remplaçait les dialogues ainsi ringardisés, où chaque thème remplissait sa propre fonction, presque de façon autonome au film. Aussi, Léon n'aurait-il pas été Léon sans Morricone, et inversement. Ces trois films permirent sans aucun doute au compositeur de passer à une étape supérieure, car pour la première fois, son art fut sublimé à un point sans égal. Les professionnels du monde entier commencèrent à poser un regard différent sur celui que désormais l'on nommait par « Il Maestro ». Ainsi s'achève ce cinquième volet de podcast dédié à Ennio Morricone et fondé sur la biographie parue aux éditions Marie B, intitulée Ennio Morricone ou le poison d'une œuvre, signé Philippe Grégoire, que nous remercions ainsi que l'éditeur Cyril Vachon. Outre le passage emprunté au cahier du cinéma, d'autres proviennent d'un ouvrage paru aux éditions Séguier en 2018, intitulé Ennio Morricone, ma musique, ma vie, ainsi qu'une biographie intitulée tout simplement Ennio Morricone, signée de Anne et Jean Lassa aux éditions Favre Saint. Qui date de 1989. Les différents morceaux du maestro que vous avez pu entendre sont intitulés Le bon, la brute et le truand, Le trio et l'extase de l'or, tous trois provenant de la bande son du film Le bon, la brute et le truand. Si vous appréciez ce podcast, je vous invite à le liker, ce qui nous permettrait de monter en flèche dans les sondages digitaux grâce à vous et nous vous en remercions par avance. Si vous souhaitez en savoir plus sur le présent podcast et sur le livre dont il se fonde, vous pouvez vous rendre sur le site morricone-biographie.fr. Vous en apprendrez davantage, notamment sur les prochains numéros, et vous aurez accès à des playlists qui reprennent l'intégralité des morceaux et des thèmes évoqués. À très bientôt pour le prochain podcast, la semaine prochaine. Il portera celui-là sur les grandes compositions et couvrira la période de 1976 à 1989. Il faudra donc être très synthétique. À très bientôt.